Dialogue entre Congolais présenté par Kéline Couté.
Bonsoir. État des lieux des parcs nationaux de la RDC, le braconnage persiste dans les réserves naturelles du pays. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, environ 500 éléphants ont été abattus en 2011 par des braconniers qui sont en général des hommes en uniforme incontrôlés. Comment expliquer l'ampleur que prend ce phénomène et comment assurer une bonne protection des parcs nationaux de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 28 février 2011. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Cosma Wilungula, administrateur directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Dans ce studio avec moi, François Ndékouyé, député national et expert en environnement. Monsieur Ndékouyé, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Couté.
Moindo Zangi, député national, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kairi Matembera de Kalemi au Katanga. La protection de nos parcs est un devoir de tous et en bénéficier est un droit de tous, preuve d'un état des droits. Carlos Benga de Butembo, Nord Kivu, la demande toujours croissante en terre. La pauvreté des populations riveraines, contraintes à vivre de la chasse, cueillette, ramassage, la méconnaissance des bienfaits immédiats du parc, la persistance des groupes armés rendent incertain le travail de l'ICCN. Merci de nous suivre à Massissi, dans la province du Nord Kivu, sur la 96.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Des cas de braconnage persistent dans les réserves naturelles de la RDC et selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, ce braconnage est pratiqué par des hommes en uniforme incontrôlés et menace la survie des espèces protégées. Nounungoy nous en dit plus.
La RDC compte plusieurs parcs nationaux reconnus par l'UNESCO comme étant un patrimoine mondial. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en péril. Ces parcs et aires protégées sont frappés de plein fouet par le braconnage. Ce phénomène a pris des proportions inquiétantes depuis plus d'une dizaine d'années à cause de la présence des bandes armées dans la partie est du pays. Les animaux qui sont abattus font partie des animaux classés sur la liste des espèces protégées. À ce jour, la réserve de faune à Okapi est la cible des braconniers en quête des Okapi. Le parc de Virunga n'est pas à l'abri de cette pratique. Les éléphants sont abattus à cause de leur pointe d'ivoire. Selon l'ICCN, environ 500 éléphants ont été abattus en 2011 par principalement des hommes en uniforme incontrôlés. Au parc national de la Garamba, ce sont les rhinocéros blancs qui payent les frais. Au parc de Salonga, dans la province de l'Équateur et Bandundu, ce sont les bonobos qui intéressent les braconniers. D'après les informations reçues, les braconniers qui opèrent dans les aires protégées sont lourdement armés. Ils opèrent avec la complicité des hommes en uniforme incontrôlés qui leur fournissent des armes et munitions de guerre. Cette situation inquiète les responsables de l'ICCN, car lorsque les braconniers sont arrêtés par les gardes des parcs, parmi eux, on retrouve aussi des éléments des FRDC.
Merci Nounungoy pour ces éléments. Monsieur Wilungula Cosma, vous êtes administrateur, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je ne vous ai pas salué, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Alors, monsieur l'administrateur, comment vous expliquez l'ampleur que prend ce phénomène? Je parle du braconnage.
En fait, le braconnage à ces jours prend l'ampleur telle que vous la vivez et vous la connaissez, telle que nous l'avons décrit, parce qu'il y a des raisons qui sont pratiquement des motivations commerciales qui se sont intégrées. Vous savez, aujourd'hui, les prix de l'ivoire sur le niveau du marché au Japon ou à Taïwan est arrivé jusqu'à 850 euros le kilo. Et quand vous regardez maintenant ce qui n'existait pas par le passé, le prix de la peau de l'okapi pour des raisons d'ornement dans les milieux orientaux ont aussi pris un prix très très grand et ça pose des problèmes. Effectivement, nous avons tout ce qui alimente les eaux étrangères avec tous les gènes, les petits bonobos, les bébés bonobos, les bébés gorilles, ça fait aussi l'affaire de grands braconnages. et au niveau des oiseaux, vous ajoutez la fraude, le trafic intense pour le perroquet gris. Tout ça alimente effectivement le braconnage dans notre pays. Pour ces raisons de braconnage, c'est que nous appelons un braconnage très dangereux, parce que le braconnage commercial, il est très destructif et très dangereux, parce qu'il porte même atteinte aux vies de nos hommes qui sont nos gardes-parcs.
Alors, vous dénoncez le braconnage commercial, comme vous le dites, mais l'ICCN est là pourquoi ? C'est pour protéger ces parcs ?
En fait, l'ICCN est là, c'est pour protéger ces parcs. Vous savez que l'ICCN aujourd'hui emploie 3000 hommes. Et nous protégeons 11% du territoire national, ça nous fait 257 000 km². Lorsque vous regardez les normes officielles de protection, un parc comme Salonga, même le parc de Garamba ou de Virunga, Salonga, nous avons à peine 36 000 km² et vous avez à peine 120 gardes, donc 80 sont actifs. Il est impensable dans un parc de forêt qu'un seul garde puisse protéger plus de 10 km².
Mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de gardes dans les parcs ?
En fait, c'est ça le problème. Un effectif de 3000 gardes ne peut pas suffire. Aujourd'hui, si nous sommes en train de lutter, c'est parce que nous avons l'avantage que le président de la République ait autorisé qu'il y ait un appui de forces armées maintenant aux côtés de l'ICCN pour faire des patrouilles mixtes et pour apporter pratiquement un renfort de nettoyage et de ratissage de tous les cas de braconniers dans ce parc. Ce sont des opérations qui sont en cours au niveau de Salonga et au niveau de la RFO, au niveau des Virunga également et au niveau des Garamba. Mais malgré ça, ça ne suffit pas encore, ça demande beaucoup plus de ressources pour pouvoir réaliser ces opérations-là. Donc on a un problème d'effectif, on a aussi un problème d'équipement. Pour vous dire que ces braconniers sont déjà qui sont suffisamment alimentés, quand vous trouvez des braconniers avec des lance-roquettes et autres, ça signifie que ce ne sont plus de simples braconnages, mais c'est un braconnage d'un niveau beaucoup plus élevé, un braconnage qui ne pargne pas en fait le gardien, parce que
un braconnage qui vous dépasse, qui dépasse l'ICCN.
Ça prend
vous retrouvez impuissant par rapport
en fait,
à cela.
Ça prend des allures d'une guerre. Les gardes-parc ne sont pas formés pour faire des guerres. Les gardes-parc sont formés pour arrêter le braconnage et au niveau de braconnage de destruction, des niveaux de braconnage alimentaire. Mais les niveaux de braconnage commercial et autres attendent des proportions qui exigent, comme dans tous les autres pays, ce n'est pas le cas seul de la RDC. Aujourd'hui, au Rwanda, en Ouganda et ailleurs, ceux qui protègent ce parc-là ne sont pas de simples gardes. C'est avec l'appui des armées de ce pays pour pouvoir faire face à des types de braconnage comme celui-là.
Alors, mais comment expliquer que ces gens qui pratiquent le braconnage soient armés, comme vous le dites, qu'ils aient des armes lourdes?
Mais qui sont-ils ces gens-là? En fait, nous sommes un pays post-conflit et nous avons en présence de bandes armées, de milices et autres qui se transforment en braconniers. Et vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a eu des anciennes armées démantelées dans notre pays, mais qui ont laissé des hommes qui sont là, sans emploi, sans autre chose, et qui n'utilisent que ce qu'ils connaissent, c'est le maniement d'armes. Et ça cause des problèmes, parce que dans ce groupe de braconniers, nous retrouvons tous ces hommes-là. Nous avons énormément d'accrochages avec eux et nous savons voir parmi les prisonniers que nous arrêtons, parmi tout ce que nous prenons, vous avez vu ici à Kinshasa, 14 sont condamnés ici et parmi lesquels vous avez le plus grand, même des éléments de l'ex-DSP du temps du Marshal Mobutu sont là parmi les braconniers.
Et vous dites qu'il y a aussi des éléments FRDC qui sont impliqués dans ce braconnage. En même temps, vous demandez le renfort de ces mêmes FRDC pour la garde des parcs.
Le FRDC, c'est l'armée nationale. Des éléments incontrôlés, ils ne sont pas FRDC. C'est ça que nous pouvons bien distinguer les choses. Nous avons un appui, nous bénéficions de l'appui de l'armée nationale, des FRDC, mais nous avons des hommes, effectivement, qu'on se retrouve et qui se retrouvent en tenue des FRDC. Ce sont des éléments qui sont contrôlés parce que ceux qui sont avec nous sont des éléments de l'armée nationale.
Merci Cosma Wilungula. François Mzekouye, vous êtes député national et expert en environnement. Comment vous expliquez l'ampleur que prend ce phénomène, le braconnage en RDC depuis un certain temps?
Oui, ce phénomène est inquiétant parce que nous savons que le tourisme, au-delà des parcs, parce qu'il ne faut pas considérer qu'on conserve pour conserver, si nous mettons suffisamment de moyens pour que les parcs existent dans notre pays, c'est parce que nous croyons d'abord à la préservation de la nature, mais aussi parce que les parcs constituent en elles des ressources. Un pays comme le Kenya tire plus de 20% de ses revenus de tourisme lié au bon entretien de leur parc. Et donc, le fait que les braconnages prennent de l'ampleur, c'est un danger pour notre économie d'abord, au-delà d'un danger sur la disparition, bien évidemment, des espèces en danger. Et donc, c'est une question que nous devons examiner avec sérieux pour doter l'ICCN de plus de moyens pour pouvoir préserver nos parcs nationaux. Mais au-delà de cette thématique, nous devons nous poser la question aussi des retombées des parcs nationaux vis-à-vis des populations locales. Parce que s'il y a une grande acuité de ces braconnages, c'est aussi parce que les populations locales ne retrouvent pas de dividendes du fait de vivre à proximité des parcs. Un de vos intervenants ou des auditeurs a fait relever le fait que les populations riveraines ou environnantes vivent dans une extrême pauvreté pendant que les animaux sont là. Parfois, ils ont des carences alimentaires en viande. Et ils se disent pourquoi nous pouvons vivre à côté, entre guillemets, de la viande et ne pas la consommer dès lors que ça ne nous profite à rien. Et donc, toutes ces questions posent un réel problème de la redistribution des revenus, des retombées venant des parcs nationaux aux populations locales. Mais comment l'ICCN peut distribuer des revenus qu'elle ne génère pas? Parce que vous savez effectivement que les zones constituées par les parcs, particulièrement à l'est, sont effectivement des zones post-conflit et pour certains cas sont des bastions actuels des mouvements armés non invités. C'est le cas dans les parcs Virunga où on retrouve des éléments non invités venant du Rwanda. C'est le cas dans la réserve d'Okapi dans la province orientale où on retrouve les LRA. Et donc, cette présence militaire n'encourage pas le tourisme. Un touriste a besoin de voir des animaux, mais n'a pas besoin de perdre sa vie en faisant du tourisme. Donc, le premier élément pour rentabiliser les parcs, c'est d'assurer la sécurité. Le deuxième élément, c'est qu'il y ait des voies d'accès. Aujourd'hui, quand vous quittez Goma pour aller à la Rwindi, ce n'est plus une heure que vous passez comme à la belle époque, vous devez passer 3 ou 4 heures sur la route parce que l'état des routes n'est pas très praticable. Le dernier aspect, c'est les structures d'accueil. Quand il n'y a pas des hôtels convenables dans le milieu et que les services sont plus chers que dans les pays voisins, on remarque que les touristes préfèrent se loger pour ce qui concerne encore le parc Virunga au Rwanda où ça coûte moins cher, c'est plus sécurisé. Et ils ne font que des randonnées sur les parcs en donnant pratiquement des miettes à l'État congolais.
Si je vous comprends bien, Françoise Zekouye, vous voulez dire que ce braconnage est justifié par les éléments que vous venez d'énumérer là?
Non, je ne dis pas que c'est justifié. On ne peut pas justifier un méfait. Mais nous disons qu'il y a des raisons qui poussent effectivement ces phénomènes de prendre de l'ampleur. Comme Ecos Maladie ici, quand quelqu'un de mal intentionné sait que aujourd'hui un kilo d'ivoire coûterait 850 euros et qu'il n'a rien pour vivre, pour manger, ça tente bien évidemment. Mais si ces populations étaient occupées et qu'ils avaient des revenus et qu'ils se rendaient compte de la valeur de ces parcs parce que un peu d'argent des parcs les revenait directement ou indirectement par la construction des écoles, par la construction des centres de santé, je crois que la population locale prendrait conscience et servirait d'une certaine manière de bouclier contre les braconnages ou dénoncerait, parce que c'est souvent des populations locales aidées par un nombre de bandits, bien évidemment, recrutés soit dans les mouvements armés non invités ou les mouvements armés qui se trouvent dans notre pays, qui sont des mouvements rebelles, ou alors bien évidemment des éléments de nos forces armées, bien évidemment non contrôlés, qui interagissent avec les populations locales pour pouvoir tirer profit de cette activité illégale, bien évidemment, qui détruit l'environnement, mais pour lequel ils estiment qu'ils ont des avantages à tirer. Et dès lors que notre armée et les gardes-parcs n'arrivent pas à avoir suffisamment de moyens pour les contrer, ils les font. Donc je ne justifie pas, mais j'explique les phénomènes tels qu'ils se passent aujourd'hui.
Merci François Nzekouye. Moindo Zangi, vous êtes député national. Comment vous expliquez ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur?
Bon, moi d'abord je vais regretter, puisqu'en fait L'ampleur que prend ce braconnage, c'est inquiétant pour l'avenir de notre pays, surtout que nous avons des espèces qui n'existent pas tellement ailleurs que nous avons intérêt à pouvoir les garder. Mais moi, je vais d'abord dire une chose, que je suis surpris que ça prenne cette ampleur maintenant, puisque par rapport à hier, je croyais que les choses étaient en train d'être maîtrisées. Mais je me retrouve que maintenant les éléphants, ils sont... Alors que hier on était à guerre, aujourd'hui on est officiellement plus à guerre, on ne devrait plus se retrouver dans des situations dramatiques comme celle-ci. Mais moi, j'ai une autre façon d'expliquer la chose. C'est qu'effectivement, il y a une question aussi de marchandage. Je l'ai dit, c'est très important qu'il faut que les gens le sachent. Dans cette question de gestion des aires protégées, il y a beaucoup de non-dits. Et c'est dans les non-dits que se retrouvent effectivement beaucoup d'autres problèmes liés à l'exagération des chiffres.
Et quels sont ces non-dits, honorable Moïse Ozani?
Les non-dits, c'est que circule beaucoup d'argent autour de la gestion des aires protégées, notamment de dons de fonds qui sont donnés par les organismes internationaux. Et à chaque fois qu'on veut que les organismes donnent, on avance des chiffres inquiétants, ce qui fait que parfois ça amène les blancs à pouvoir toucher très rapidement dans leur poche. Mais le problème qui se retrouve là-bas, c'est de savoir comment tous ces fonds que nous recevons en appui aux efforts nationaux sont-ils gérés. Moi, c'est à ce niveau-là que j'ai cité le débat. Puisqu'en fait, depuis qu'on a commencé à parler des espèces qui sont en voie d'extinction, on a annoncé des efforts, on a dit on a débloqué autant d'argent pour la sécurisation des parcs, on a débloqué autant d'argent, mais en réaction, on ne voit absolument rien qui se concrétise sur le terrain. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Donc, pour ces raisons, je ne nie pas qu'il n'y a pas d'éléphants qui sont tués, mais il y a aussi parfois d'exagération des chiffres pour essayer de justifier cette histoire-là. Il y a aussi l'implication de la population riveraine dans les efforts de protection des aires protégées. C'est vraiment important. Qu'est-ce que nous vivons en RDC? En RDC, moi je ne fais que l'expérience de ma province qui est le Nord Kivu. Le parc où l'ICSN est en conflit permanent avec les populations riveraines.
Et pourquoi?
Je sais que vous avez appris en 2010, en 2011... Il y a même des villages tout entiers de 10 000 personnes qui sont incendiées par l'ICSN. Il y a aujourd'hui, si vous allez à la prison de Mouzenze, j'ai posé la question ce matin, il y a 170 personnes parmi les prisonniers, 170 sont des cultivateurs qui sont arrêtés par l'ICSN.
Pour quelles raisons on vous a donné
Bon, on dit qu'on les a attrapés en train de cultiver, on parle de... C'est plusieurs raisons, mais c'est une preuve qu'effectivement que la population locale est en conflit avec l'ICSN. Or, l'étendue du parc fait que sans la contribution de la population, on ne peut pas prétendre bien protéger un parc comme Virunga qui a 800 000 hectares à lui seul. Donc les 300 hectares de parc qui sont là-bas ne peuvent pas le savoir, ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'appui effectif de la population locale.
Or, lorsque dans la population... Ça veut dire que l'ICSN ne collabore pas avec la population locale, c'est ça?
J'ai dit les conflits, donc vous avez compris qu'il n'y a pas de collaboration. C'est-à-dire, lorsqu'il y a cette rupture entre la conservation et la population riveraine, qui devrait être le premier élément de la conservation, ça cause des problèmes. Donc, on ne sait pas impliquer cette population à dénoncer les braconniers. Puisque c'est là, j'ai toujours, moi je suis né au parc, j'ai grandi dans le parc, mes parents m'ont toujours dit qu'avant, les gardes-parc n'avaient pas d'armes. Et que les chefs de localité qui sont autour du parc, ce sont des principes qui étaient censés protéger les parcs. À chaque fois qu'il y avait un braconnier, ce sont des qui le dénonçaient. Et à la minute, la société trouvée. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où les parcs ne collaborent pas avec la population dans sa politique et ça fait que la population ne l'aide pas à pouvoir trouver des choses comme ça. Et à définitive, je voudrais quand même revenir sur la question de l'armée. C'est très important.
Allez lire.
C'est vrai qu'au comprend l'armée à Rafour pour essayer d'aider les gardes de parc dans leur mission de protection de ces espèces. Mais il faut se dire que pour des raisons de sécurité, il est déployé des forces importantes dans les parcs. Et moi, à chaque fois que je traverse le parc, je trouve une barricade de militaires qui me demande, honorable, donnez-nous 500 francs ou 5 dollars, puisque sinon nous allons mourir ici de faim. Je me dis, moi, dans mon intérieur, les militaires qui est dans un parc affamé, qu'est-ce qu'il va faire à la suite? Il va tuer l'antilope pour avoir l'argent. C'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller dans les parcs, vous ne leur donnez pas de moyens, et croire qu'eux qui ont des armes, qui ont des lance-roquettes, effectivement, qui vont se taire devant des choses comme ça. Et je voudrais enfin dire que le braconnage n'est pas seulement l'affaire des groupes armés. C'est vrai que les groupes armés, ils sont impliqués dedans de manière systématique. Il y a l'armée nationale qui est impliquée dedans aussi. Mais aussi, il y a des éléments des gardes de parc qui sont impliqués eux aussi dans les affaires de braconnage. À chaque fois que ça se passe comme ça, à chaque fois que moi j'ai les éléments, si le braconnage effectué par les gardes de parc, je prends le souhait toujours de faire un message.
Merci,
à l'ADG ou au directeur de l'ICCN pour lui dire, voilà, j'ai des informations, par exemple, la semaine passée, qu'il y avait un éléphant abattu par les gardes de parc autour de Vikingi, à Kavignon, je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes, je ne sais pas.
Merci, honorable Moïdo Zangui. Monsieur Kosma, ouais. Comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre de la part de l'honorable?
Effectivement, je veux peut-être apporter certaines lumières par rapport à tout ce que je viens d'attendre. Je sais qu'il y a un problème d'information. C'est ça qui est la réalité. Parce que dans ce secteur que nous avons, tout le monde connaît. Mais nous avons la responsabilité d'apporter la lumière et les informations réelles. Lorsqu'on parle de retombées de parcs, je vais bien dire aux gens qu'aujourd'hui, l'ICCN a développé une stratégie que nous appelons la conservation communautaire, qui implique totalement les communautés dans la gestion. L'ICCN, même dans le formule de gestion de parcs, ce que les gens ignorent, nous avons certaines catégories de parcs aujourd'hui qui sont gérées par les communautés. Toute la structure de gestion est faite par la population. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ramener notre population à comprendre que le parc n'est pas le patrimoine ni de l'ADG, ni du ministre de l'Environnement, mais c'est leur patrimoine. C'est d'abord un patrimoine local, un patrimoine de cette population, un patrimoine national, avant d'être un patrimoine humanitaire.
Et ça fait combien de temps que vous avez associé maintenant la population?
Non, il faut dire que ce n'est pas peut-être assez de temps. Nous avons 71, si je l'ai dit, globalement, parcs. C'est pour dire que les stratégies ne concernent pas tous les parcs. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure il y a des parcs où les populations sont responsables de la gestion. Il y a des parcs où les populations sont impliquées au travers de divers projets d'intérêt communautaire. Et nous sommes en train de faire les efforts. Si je prends le parc de Virunga, qui est un des grands parcs où nous avons cette population. Vous savez qu'à ce jour, le parc de Virunga, c'est le grand où nous faisons même du tourisme. Si je vous donne des statistiques, rien que du mois de février, nous sommes en train d'atteindre presque 400 touristes. Le recette, le permis de ce touriste, 30% de ces recettes sont rétrocédées aux communautés, donc à ces populations riveraines. Et c'est avec cette rétrocession que nous construisons les infrastructures. Virunga a bénéficié aujourd'hui de 9 écoles modèles et modernes du type standard international, et équipés en bancs et tout, qui sont octroyés effectivement aux communautés par rapport aux rétrocessions que nous faisons. Virunga est aujourd'hui en voie de bénéficier d'une centrale hydroélectrique à Mutuanga qui va pouvoir alimenter plus de 30 000 foyers, afin de pouvoir limiter ces populations qui n'utilisent que le bois de chauffe ou le bois de ménage, le bois du parc, et qu'ils puissent arrêter à ça. Et il y a énormément d'autres projets d'intérêt communautaire qui impliquent les populations et leur donnent le retombée ou le bénéfice du fait que nous avons le parc. On a un grand projet de reboisement tout autour de Virunga avec ces communautés. Et s'il faut parler du braconnage, parce qu'il faut que je le dise, vous savez ce qui est surprenant, peut-être ce que les gens ne savent pas, le braconnier ne se retrouve pas au sein des populations riveraines. Ça, je peux vous le dire presque partout. C'est peut-être quelque chose que les gens ne savent. Les populations riveraines qui connaissent ce que c'est le parc sont moins enregistrées parmi les braconniers. Mais les braconniers sont souvent des hommes et des responsables ou des autres hommes qui ont des capacités, qui viennent même de très loin du parc. Si vous prenez au niveau de Virunga, si je prends parc par parc, vous enregistrez effectivement ces hommes qui viennent tuer ces éléphants. Dans moins de 5-10 minutes, on ne peut pas tuer un éléphant, arracher les défenses et disparaître. Il faut avoir tous les moyens, l'équipement nécessaire et le moyen qu'il faut pour arriver à le faire. Ce n'est pas le pauvre cultivateur qui est à côté qui ferait une chose comme ça.
Vous avez suivi l'honorable, il y a aussi la garde qui est commis...
Oui, au niveau de garde, nous savons qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un braconnage interne. Et nous, le braconnage interne fait partie de ce que nous appelons les abominations. Un garde qui est enregistré même pour avoir tué une souris est directement révoqué sans préavis. Donc ça, ce sont des dispositions qui sont prises. Ce qui fait que quelqu'un peut le faire sans qu'il soit connu ou qu'il soit peut-être identifié. Mais dès qu'il est identifié, directement, il doit pouvoir être sanctionné. Je voudrais répondre à une question importante. C'est la question qui concerne le fonds.
Oui.
Je crois que là aussi, il faudrait que les gens réalisent. Notre pays, depuis presque les 30 dernières années, est un pays où il n'y avait pas de relations bilatérales avec les autres pays ou les relations multilatérales, la communauté internationale intervenait dans notre pays au travers des ONG. Et je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, presque 10 ans après la reprise de relations bilatérales avec le monde international, la communauté internationale n'a pas encore refait confiance à l'administration congolaise et tous les fonds qui sont mobilisés pour la gestion de parcs sont des fonds qui sont gérés par les ONG internationales. Donc il faudrait que les gens retiennent ça, qu'il n'y a pas de fonds qui passent au travers des administrations locales pour gérer. Nous mobilisons plus de 60 millions même par an ou par 2, 3 ans ou 4 ans.
L'ICCN ne gère pas.
Non, l'ICCN ne gère pas ces fonds par rapport au principe qu'il y a. Aujourd'hui, l'ICCN se bat et a besoin de la compréhension comme des députés qui sont là. Demain, ils vont être pas, ils vont gérer le budget autre. Ils comprendront quelle est l'importance par rapport aux besoins de ces entreprises comme l'ICCN.
Merci, voilà. Monsieur Kosma. Je vais vous redonner la parole. Nous sommes encore là. Cette situation de braconnage qui persiste dans les réserves naturelles de la RDC est aussi dénoncée par la société civile du Katanga. Pour Maître Sabin Mandé, activiste de la société civile et point focal du réseau ressources naturelles au Katanga, la présence des miniers constitue l'un des facteurs à la base du braconnage suite à la destruction de l'habitat des différents mammifères dont les éléphants. On écoute Maître Sabin Mandé au téléphone de Samuel Kachak.
Au Katanga, on a suffisamment dénoncé le braconnage et ICCN a deux rapports sur la présence des miniers dans le parc parce que en même temps qu'il y a braconnage, en même temps qu'il y a destruction de l'habitat de ces mammifères, notamment les éléphants. C'est tout là le grand problème, les miniers qui se retrouvent dans le parc. Comment vous allez protéger les animaux sans protéger leur habitat? Donc ça pose déjà un problème. Donc nous allons faire des actions en justice. Nous interpellons quand même l'autorité. La société civile dénonce le braconnage. Au-delà de cela, il faut qu'on aille dans des résolutions concrètes, dans les mesures pratiques, au lieu de vœux politiques. Pourquoi pas ne pas sanctionner? La loi existe, on n'applique pas la loi. Mais aussi, amener le lobby au niveau international. Parce que les questions des aires protégées sont des questions locales, mais aussi globales. Ça concerne l'ensemble de l'Afrique, ça concerne l'ensemble du monde. Et surtout pour les aires protégées du Congo.
François-André Couillé, l'exploitation minière, aussi un des facteurs qui favorise le braconnage.
Non, il ne l'a pas dit. Je ne crois pas qu'il est... L'activité minière peut favoriser à elle les braconnages, par contre, peut éloigner les animaux de leur habitat naturel.
Oui, lorsque ces animaux s'éloignent et que quelqu'un qui passe par là tire sur cet animal, est-ce que ce n'est pas le braconnage?
Non, je ne crois pas que cela en soi constitue les problèmes liés au braconnage. C'est vrai.
Est-ce que ça ne préjudique pas les parcs?
Je suis d'accord que c'est un élément qui met en danger la vie des animaux. Et en cette matière, les codes miniers a prévu des zones de restriction où l'activité minière ne doit pas se dérouler. Et parmi ces zones de restriction, il est cité nommément les parcs nationaux et les réserves naturelles. Et donc, aucun permis ne peut ou ne doit être concédé à un détenteur de titres miniers dans une zone de restriction. Mais si par malheur cela arrive, parce que nous n'allons pas faire un débat sur les secteurs miniers, il peut y avoir des erreurs au niveau du cadastre minier sur la localisation d'un titre minier, et à ce moment-là, il y a des concertations qui doivent avoir lieu avec l'ICCN pour régler ces différends. C'est la même question, bien évidemment, qui n'a pas été citée ici, mais qui concerne l'exploitation pétrolière. Il y a des débats qui ont eu lieu sur la question, notamment dans les Grabennes albertines, avec la société Soco, qui s'est implantée dans un parc. Et là aussi, bien évidemment, il faut qu'il y ait des concertations entre les exploitants pétroliers et les gestionnaires de parcs pour étudier ensemble les méthodes qui doivent être utilisées de sorte à préserver la biodiversité et notamment les animaux se trouvant dans les parcs. Donc, ces conflits d'intérêts qui doivent naître parce que on doit en même temps se dire nous avons des ressources naturelles que nous devons exploiter pour accroître les revenus de l'État. En même temps, les parcs constituent elles aussi des richesses pour un État. Il faut donc un juste équilibrage qui doit être fait. On ne va pas dire on privilégie un aspect et on néglige un autre, mais on doit trouver des arbitrages qui permettent à ce que l'économie, l'environnement soit protégé. Surtout que, comme l'a dit l'honorable Nzangi, que nous avons des espèces qui n'existent que dans notre pays. Et malheureusement, nous n'en faisons pas un grand marketing. Quand on voyage à travers le monde, on voit toujours la marque Kangol, kangourou australienne, qui est vendue non pas simplement en tant qu'animal, mais en tant que en matière publicitaire dérivée. Ça peut être des t-shirts, c'est des porte-clés et autres. Mais chez nous, dans notre pays, nous croyons que nous ne pouvons tirer bénéfice des l'Okapi qui par le fait d'aller voir l'Okapi. Nous pouvons vendre l'Okapi à travers d'autres supports dérivés qui font la publicité de cet animal à travers le monde. Ça, c'est une question à avoir avec l'ICCN, avec le ministère du Tourisme ou l'Office national du tourisme pour valoriser nos animaux et ne pas croire que on ne peut pas tirer des dividendes de nos animaux sans pour autant accéder directement à ces animaux sur place. Mais je voulais dire aussi que si, comme dit Cosma Wilmoula ici, que 30% des recettes sont rétrocédées aux communautés locales, c'est vrai, j'en suis conscient, parce que moi je suis originaire de Rumangabo, et là-bas, il y a des actions qui ont été posées, je suis conscient qu'il y a un projet de reboisement qui s'est fait, mais je crois que, comme l'a dit également l'honorable Nzangi, il reste quand même des conflits avec la population locale qui n'arrive pas à avoir suffisamment de terres arables à cultiver. Et très souvent, l'ICCN empêche les populations locales à cultiver dans des zones qui lui sont réservées. Donc il faudrait quand même que, de ce point de vue-là, l'ICCN assouplisse ses mesures pour permettre à la population de cultiver, parce que sans agriculture, la population ne sait pas vivre. Et bien évidemment, trouver des mécanismes de règlement de ces conflits sans amener des personnes à aller jusqu'en prison, parce que cela devient un conflit très ouvert qui peut amener des animosités. Pourtant, le parc appartient à cette population, elle appartient à la population congolaise.
Merci François Ndekouye. Honorable Nzangi, on a évoqué ici l'exploitation minière et même l'exploitation pétrolière dans certains parcs de la RDC. Si je ne me rappelle pas, à une certaine époque, vous étiez favorable à l'exploitation pétrolière dans le parc de la Virunga. Pourquoi?
Oui, bon, je vais le dire. D'abord, je voudrais qu'effectivement, si le niveau de la loi, qu'on ne crée pas de possibilité de compromis. S'il est interdit de faire l'exploitation minière dans une zone, puisque la zone est protégée, il faut qu'il soit ferme, qu'on ne peut pas faire l'exploitation dans cette zone, puisque c'est la possibilité de compromis qui, effectivement, est en train de nous créer des problèmes. Je crois qu'au niveau de la loi, il faut effectivement que toutes ces questions-là soient réglées. J'espère bien qu'il y a la loi, surtout sur les hydrocarbures, qui doivent régler ces questions. Alors pour les ressources, moi je dis, bon, en tant qu'économiste, on ne peut pas, puisqu'on a par la volonté, à une certaine époque, on a demandé qu'une zone soit déclarée parc et qu'on y retrouve une manne. On ne peut pas se dire, puisqu'on avait déjà dit que c'était un parc, on va laisser cette manne sans l'exploiter. Moi, je ne peux pas savoir expliquer à mon enfant que j'ai fait, il y a du pétrole ici, et qu'en 1925, on avait dit que cette partie-ci, il n'y aurait pas des activités, qu'on laisse ce pétrole là-bas, alors que les gens ont fait autour de cette partie. Je me suis dit non. Au même moment que nous voulons protéger l'environnement, au même moment, notre pays a besoin de revenus. Au même moment, notre gouvernement a besoin de ressources. Ce n'est pas pour rien que nous le disons tout le temps que ça fait 80 années quand même que le parc existe là-bas et que les gens continuent à marcher pieds nus. Si le parc était une fée à soi, peut-être qu'il se serait en train de se vêtir, il ne serait pas dans une grande pauvreté comme il le sont aujourd'hui. On ne dit pas aussi que le pétrole vient absolument mettre fin à la pauvreté, mais on doit s'impliquer pour trouver effectivement des alternatives, pour trouver les moyens à faire fonctionner et à lutter contre cette pauvreté-là. C'est pour cela que moi je me suis dit, et nous nous sommes dit, en fait, que c'était soutenable qu'on exploite le pétrole dans les parcs, mais il nous faut
même
tous...
Même que ce n'était pas sacrifié, il nous faut finalement la flore et la faune.
Il nous faut tous être vigilants. Ce n'est pas seulement au Congo qu'on va exploiter le pétrole. Le pétrole, on l'a toujours exploité partout. Ce que nous devons faire, et nous, comme classe politique, et l'ICCN, qui est l'organe technique, s'il parle de l'environnement, c'est de prendre des mesures de garde-fous pour que cette exploitation ne puisse pas effectivement toucher les animaux, comme les éléphants, autres qui nous devons protéger, les gorilles, et ainsi de suite. Ça nous permettra, au même moment, d'avoir le pétrole et de rester avec les gorilles.
Merci, honorable Zangui. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
La semaine dernière de Goma, au Nord Kivu, la population congolaise devrait alléger la tâche aux gestionnaires des aires protégées, car elle constitue la première instance à être informée à propos de toutes sortes de braconnages de la biodiversité. Et actuellement, elle s'est révélée comme adversaire de nos aires protégées du fait que certains politiques ont usé d'une démagogie lors des campagnes électorales, à l'incitant à la destruction de nos ressources fauniques, floristiques et halieutiques.
Brève réaction, honorable.
Oui, vous savez, on a toujours utilisé cette astuce-là pour condamner des politiciens, notamment les députés, que les députés y marchandent. Moi, personnellement, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'honorable Nzangi marchande le parc pour se faire élire, mais cette fois-ci, je me suis fait élire dans une circonscription qui n'a même pas besoin du parc. C'est pour dire que pour se faire élire, on n'a pas besoin de parler du parc. Si c'était vraiment parler du parc pour se faire élire, ce serait raccourci. Vous avez vu comment les gens se bousculent pour être élus. Si c'est vraiment dire je vous donne le parc et on vous élit, tout le monde irait déjà là-bas. Donc c'est pour vous dire que on ne peut pas éviter ces débats. Les débats sur les aires protégées, sur les relations entre la population riveraine et les aires protégées, c'est un débat réel. Merci, il faut le faire, il ne faut pas l'éviter.
Merci, honorable Zangui. Comment assurer une bonne protection des parcs nationaux de la RDC? C'est la deuxième partie de notre émission. Monsieur Kosma, comment on peut faire pour assurer une bonne protection finalement de nos parcs nationaux?
Merci beaucoup. Je crois une chose qu'il faut bien préciser, c'est de connaître ce que c'est l'ICCN. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est une institution d'application de la loi. Nous sommes une institution d'application de la loi. Nous ne faisons pas la loi. Heureusement que j'ai deux députés à mes côtés.
Est-ce que la loi est appliquée?
Voilà. Et c'est ça le problème. L'ICCN, quand elle applique la loi, ça signifie que les limites de parc sont là. On me dit, dans le parc, ce sont les habitats des animaux et non les habitats des hommes. Dans un parc, on ne peut pas faire ça et ça, il n'y a pas de braconnage, il n'y a pas ces choses-là. Voilà la mission de l'ICCN. Et le problème que nous avons dans le pays, parce que les députés doivent bien l'avoir et toutes nos instances politiques, nous avons un problème d'aménagement du territoire. On doit essayer de remettre les choses à leur place pour dire tel espace est concédé pour une exploitation minière, tel espace pour un parc, tel espace pour l'agriculture, tel espace pour une concession forestière. Et à ce moment-là, quand un pays est aménagé, il ne se posera pas toutes ces questions. Vous savez, aujourd'hui, si je prends la carte de retombe minière, vous la juxtaposez sur la carte des aires protégées, et maintenant vous la juxtaposez sur la carte des blocs pétroliers et autres, Vous allez voir quel type de confusion on est en train de vivre. Et aujourd'hui, ce sont nous qui sommes les gestionnaires à tous les niveaux qui sommes en difficulté parce que nous nous entraillons entre nous par rapport à ce mécanisme qui n'a pas permis qu'il y ait un aménagement judicieux de
notre
territoire.
Deuxième proposition, aménagement du territoire et puis ?
Alors, l'aménagement du territoire et puis, en fait, la connaissance de la nécessité d'avoir des aires protégées. Vous savez qu'aujourd'hui, on semble oublier, ça je voulais dire
soyez
même...
Soyez bref dans vos réponses,
voilà,
nous sommes vers la fin de l'émission.
À l'intention de l'honorable, on ne protège pas pour protéger, comme nous avons dit. La politique de la protection ou de la création des aires protégées ne se fait pas au hasard. Nous avons une visée, un objectif. Nous sommes un pays où, à travers le monde aujourd'hui, le deuxième bloc forestier doit répondre aux plus grands défis du changement climatique et du réchauffement climatique. Comment y répondre? C'est d'avoir privilégié la création des aires protégées à écosystèmes forestiers. Donc on ne crée pas les aires protégées comme pour les créer, mais on répond à une problématique. Parce que l'espèce humaine que nous sommes peut aussi être demain une espèce en voie de disparition. Et nous le sommes presque déjà. Et si nous on ne trouve pas de solution pour nous tous, l'espèce humaine peut disparaître. Quoi que nous cherchions l'économie, quoi que nous cherchions ceci ou cela, parce qu'on n'a pas veillé à certains paramètres qui déterminent aussi la survie de cette espèce humaine. Voilà ce qu'est notre mission et notre rôle par rapport à tout ça. Et nous pouvons même vous donner des éléments ici à Kinshasa et partout.
On a besoin des propositions pour bien
voilà
assurer la protection des parcs.
Le décret de pollution. Comment on ne peut pas équilibrer l'atmosphère dans cette ville lorsque vous avez toutes les villes. Vous n'avez même pas deux arbres dans vos maisons,
merci,
dans vos parcelles, ça pose des problèmes. Voilà pourquoi il y a nécessité de pouvoir protéger, assurer une bonne gestion. Et bien sûr, il faut de ressources et de moyens. Nous avons besoin d'un budget conséquent au niveau de l'ICCN. Nous avons besoin d'un appui conséquent. Quels sont les atouts qu'on utilise?
Merci.
Un garde-parc doit être suffisamment doté de moyens, que ce soit des moyens en équipement et des moyens
merci
en survie, en surveillance.
Merci, monsieur Cosma. Honorable François Ndekouye, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Et qu'est-ce que vous proposez pour une bonne protection des parcs nationaux en RDC?
Je crois qu'en premier lieu, nous devons vider de nos parcs nationaux et réserves des groupes armés. Ça, c'est, à mon avis, la première des solutions. La deuxième, c'est que nous devons accroître l'accès à nos parcs aux touristes et créer des infrastructures d'accueil hôtelières et routes. Mais en même temps, il faudrait que quand l'ICCN va accroître ses revenus, que le partage de ces ressources soit plus ressenti au niveau de la population locale pour que la population locale soit un partenaire et non un ennemi de l'ICCN.
Merci, honorable Ndekouye. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Honorable Mohindo Nzangi,
oui,
en conclusion, vous proposez quoi?
De tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, je voudrais qu'on change la politique de gestion des parcs. Il faut absolument qu'on en parle, il faut qu'on sécurise les parcs, il faut qu'on règle des problèmes avec les populations riveraines et il faut qu'on gère mieux les fonds qui viennent de l'extérieur. Ça doit être transparent. Quand on nous dit qu'il y a de l'argent qu'on envoie aux ONG, moi en tout cas ça me surprend. Je croyais que cet argent venait nous aider à protéger les parcs. Si cet argent est consommé dans des randonnées, puisqu'on envoie les ONG à Goma, dans des randonnées sur les lacs, avec des maisons douées à 13 000 $ par mois, ce n'est pas ça qui va nous aider à protéger les parcs. L'argent qu'on donne comme don pour les parcs doit aider à protéger les parcs et non à protéger ce qui amène cet argent-là.
Merci.
Et dernièrement, si la communauté internationale demande de nous la protection des écosystèmes, ils doivent être conséquents. Ils doivent mettre la
merci
main à la poche.
Merci, honorable Zangui, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu et Samuel Katia, sous la supervision de Martin Sebjangwe. Merci à Héritier Sidiakala, qui est à la technique au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radioocapi.net. Bonne soirée chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.